Radio Livre Dormir.
Radio Livre Dormir.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
Le matin, de 8h
à 10h,
le jeudi matin.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
92.2 sur Canal Sud.
92.2. Rencontre avec les autrices de la collection Friction des éditions Lorelei. Le mardi 17 janvier à la librairie Terra Nova.
Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être là malgré le temps. Et donc merci aux éditions Lorelei. Je laisserai à Jérôme le soin de présenter tout le monde. Merci de nous avoir proposé de le lancement de cette collection Friction à Terra Nova. Donc, beaucoup de plaisir à les accueillir. Voilà, un grand merci encore. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne discussion.
Ok. Bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être présents et présentes ce soir. Merci à Terra Nova de nous accueillir. C'est la première présentation de la collection Friction. Donc, on est vraiment très heureux et heureuses d'être là. Avant de commencer à vous parler de la maison d'édition et de la collection Friction, je vais faire un petit tour de table pour présenter les personnes qui sont autour de moi, parce qu'on est nombreux autour de cette table. Donc, en face de moi, Anna Scrivener, qui est l'autrice d'un des livres qui est... Voilà, j'ai les dos, voilà. Donc, celui-ci. De l'autre côté, Jérôme Dupéra, qui est fondateur des éditions Le Relay et donc co-directeur de la collection avec moi-même. Juste à côté de moi, Sarah Alonso Gomez, qui est maîtresse de conférence à l'université d'Aix, et avec qui on a coécrit l'ouvrage Contre-visualité. Et Julia Ramirez Blanco, qui est l'autrice de Souillade del Sol, juste là. Et enfin, pour terminer ce tour de table, on a nos deux graphistes du studio Huse et Bossard, donc Ariane Bossard et Olivier Huse.
Et donc Julie Martin, tu l'as dit, qui est cofondatrice aussi des éditions Lorelei, chercheuse, enseignante et critique d'art. On va surtout vous présenter la collection Friction, donc, dont les trois premiers titres viennent juste de paraître. Juste quelques mots sur les éditions Lorelei qui accueillent cette collection. C'est une maison d'édition qui existe depuis maintenant 5, 6 ans, enfin quelques années, mais qui était surtout liée à l'activité curatoriale d'un lieu qui s'appelle 3A, qui existe à Toulouse, quartier Bonnefoy, maison d'édition qui publie et qui va continuer à publier aussi des livres d'artistes, des publications d'artistes, ou plus largement des livres où l'expérimentation éditoriale et graphique est au cœur des projets. Jusqu'ici, donc, c'était généralement annexé à des projets accueillis à 3A ou à nos activités curatoriales et artistiques à Julie et moi-même. Et on a donc eu le souhait de renforcer, on va dire, l'activité éditoriale de la structure Lorelei en créant une collection, la collection Friction, qui tourne autour des relations entre art et politique. Julie va en dire quelques mots de façon plus détaillée, et qui sera un peu la colonne vertébrale d'une activité beaucoup plus régulière d'édition d'ouvrages à compter de maintenant, quoi, disons, et pour les années à venir. Je te laisse dire quelques mots de la collection.
Donc la collection Friction, c'est une collection d'essais assez courts, hein, qu'on voit le livre est assez fin, qui s'intéresse aux liens entre art et politique. Il ne s'agit pas d'y répondre de façon définitive, mais plutôt d'explorer à chaque fois des pistes sur la façon dont ces liens peuvent se nouer, se nourrir l'un avec l'autre. Chaque année, on souhaiterait réussir à porter 3 éditions d'auteurs ou d'autrices de différentes disciplines qui viennent interroger ces liens. Donc des personnes qui peuvent être issues de la philosophie, l'histoire de l'art, mais aussi d'autres domaines. Parmi ces 3 livres, on essaye d'avoir plusieurs moments qui sont représentés, soit des périodes plus anciennes, plus historiques. Là, ça va être le cas avec le livre d'Anna. Des périodes plus contemporaines pour le livre de Julia et puis celui qu'on a écrit avec Sarah. Ces essais, on veut qu'ils soient assez en lien avec l'actualité, donc avoir aussi la possibilité de publier rapidement les ouvrages, donc de pouvoir mener des textes de façon assez rapide. Dans le milieu universitaire, des fois, ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans de voir une publication. C'est vrai que là, on a envie d'être sur un rythme qui nous permet de réagir à une certaine forme d'actualité assez rapidement. Et là, ça s'est fait très, très vite, ces premiers livres, quand même. Merci d'ailleurs aux autrices pour leur réactivité, parce que c'est, voilà, en moins d'un an, quand même, on a réussi à faire ça. Et une des pistes qui nous intéresse aussi, c'est de mettre à disposition des textes, qui sont déjà existants, donc qui sont des textes anciens et qui n'ont pas été publiés depuis longtemps, ou bien des traductions. Donc là, c'est le cas avec le livre de Julia, qui est un livre qui existait en espagnol et on avait envie de le traduire en français, avec pour l'instant, en tout cas, une priorité qui est pas forcément de traduire des livres qui sont en langue anglaise, parce qu'on se dit que c'est quand même une langue qui est somme toute assez lue, et donc d'essayer aussi de privilégier d'autres langues, parce que c'est d'autres pensées qui n'arrivent pas toujours jusqu'à nous du fait de la barrière de la langue. Peut-être aussi commenter, mais très rapidement, le petit format, mais je pense qu'on va en reparler, parce que la question du graphisme est vraiment très importante pour nous. Mais on voulait des livres qui soient aussi des livres qui donnent envie de s'engager dans la lecture et qui ne soient pas forcément des ouvrages extrêmement gros où on se dit « Oulala, il va falloir 15 jours, 3 semaines pour lire cet ouvrage ». On avait envie que ce soit des livres qui engagent sur quelque chose de précis, mais où on peut en un après-midi aborder un sujet, donc quelque chose aussi qui peut donner envie de se lancer dans une lecture sur un sujet qu'on ne connaît pas, qui nous est complètement étranger, mais on va rapidement pouvoir avoir des outils pour penser. Donc voilà aussi pourquoi c'est des courts essais qu'on a plutôt privilégiés. Peut-être on peut commencer à présenter chacun des livres. On commence avec Anna.
Le 1er décembre 1924, paraît le premier numéro de la revue La Révolution surréaliste, avec pour thème affiché à la une l'énoncé « Il faut aboutir à une nouvelle déclaration des droits de l'homme ». Dans la rubrique « Texte surréaliste » se trouve, en pleine page, un montage de portraits photographiques configurés en un tableau synoptique qui rejoue le schéma visuel des planches criminologiques d'un Lombroso ou d'un Bertillon de la fin du XIXe siècle. Le tableau synoptique est reproduit page 6 du petit livre. Suivant l'ordre alphabétique, 28 portraits masculins entourent la photographie judiciaire d'une femme, Germaine Berton. Les portraits masculins sont ceux des membres du jeune mouvement surréaliste auquel se mêlent les portraits de Picasso, de Chirico, de Freud. Et ces 3 hommes se trouvent assimilés au mouvement surréaliste, tout comme Germaine Berton, indépendamment de leur volonté et en dehors de leur connaissance. En bas du tableau est inscrite une phrase de Baudelaire: la femme est l'être qui projette la plus grande ombre ou la plus grande lumière dans nos rêves. Ancienne étudiante de l'école d'art de Tours, un temps ouvrière métallurgiste, puis sans emploi par sa volonté propre, Germaine Berton est proche des milieux anarchistes et anarcho-syndicalistes. Elle est autrice de plusieurs articles antimilitaristes et révolutionnaires publiés dans la presse spécialisée. Le 22 janvier 1923, donc dimanche, ça sera le centenaire de cet événement, dans les locaux du quotidien monarchiste et ultranationaliste L'Action française, elle tue par arme à feu Marius Plateau, secrétaire général de la Ligue d'Action française et chef des Camelots du Roi. Dans le bureau de Plateau, elle tente une première fois de se suicider, mais survit et se remet rapidement de ses blessures. Elle est arrêtée et emprisonnée 11 mois durant, puis elle est la protagoniste d'un procès aux assises ayant un retentissement médiatique considérable à ce moment-là, procès à l'issue duquel Germaine Berton est acquittée. Pourtant, elle a toujours revendiqué la pleine et exclusive responsabilité de son acte. Ce petit livre, intitulé « Terrorisme esthétique », présente une étude de ce tableau synoptique surréaliste avec Germaine Berton du point de vue de sa teneur politique. Il propose un récit ramassé de l'histoire de ce crime politique. Il interprète le tableau en le reliant au texte de Louis Aragon, en particulier, texte de soutien à Berton, ainsi qu'à une enquête surréaliste portant sur le suicide, considéré comme droit humain et geste politique. L'on rencontre donc dans ce livre la question surréaliste de ce que pourrait être une politique du rêve. Mon texte accentue la division entre anarchistes et surréalistes après une phase de soutien commun à Germaine Berton, division à l'occasion d'une deuxième tentative de suicide de Berton et à propos de sa vie erratique que les anarchistes finissent par rejeter. Cette division marque à mes yeux la volonté surréaliste de s'affirmer comme mouvement révolutionnaire autonome, une volonté que je souhaite prendre au sérieux. Enfin, le livre inscrit cette histoire dans le contexte brutal d'une guerre civile européenne en sursis depuis la fin de la guerre totale impérialiste, depuis la révolution bolchévique et la résistible ascension du fascisme et du nazisme. À l'origine de ce travail, il y a mon étonnement face à l'attention hâtive, légère ou distraite que les exégètes du surréalisme accordent à la trame politique complexe, traversée d'équivoques, dont ce tableau synoptique est un opérateur puissant. Dans la littérature critique que j'ai étudiée et dont je présente 4 attitudes interprétatives qui me semblent paradigmatiques, seule une historienne, Fanny Bunion, qui est spécialiste de la violence politique commise par les femmes, donc qui n'est pas du tout spécialiste du surréalisme, seule Fanny Bunion considère le soutien surréaliste à Germaine Berton comme un acte politique réel et non comme une provocation nihiliste gratuite. Seuls les surréalistes, écrit-elle, avaient compris l'effet pervers de l'acquittement de Germaine Berton, acquittement qui trahissait une volonté publique assez partagée à ce moment-là d'étouffer la force de son geste et de nier qu'en ce geste, quelle qu'en soit la violence, une femme puisse agir de manière autonome en tant que sujet politique.
Merci beaucoup, Anna. On va faire une petite présentation donc, de chacun des ouvrages, discuter un peu de ce qui les réunit du point de vue de la collection et de son design éditorial et graphique. Et après, on aura une discussion sur d'autres questions qui peuvent réunir les trois livres ou qui, en tout cas, sont transversales de diverses manières aux trois ouvrages, avant, évidemment, aussi de discuter avec vous-même. Donc, je passe la parole à Julia pour la présentation de La Ciudad del Sol.
Et merci beaucoup, s'entend bien. Et mon français est un peu comme ça, alors je vais essayer de m'exprimer un peu compréhensiblement. S'il y a quelque chose qu'on ne se comprend pas, s'il vous plaît, dis-moi. Et Anna m'a inspiré un peu de commencer temporairement avec quoi? Pardon. Avec une narration un peu temporelle, ces livres-ci. En vérité, a commencé quand j'étais en train de faire ma thèse. J'étais en train de faire une thèse sur l'art et l'utopie. Et tout au coup, les 15 mai de 2011, et environ 40 personnes ont dormi sur la Puerta del Sol, qui est une des places principales de Madrid. Et après ça, un camping, comme une petite ville en miniature, s'est construit, un campement, un grand campement. Et ce campement a fonctionné un peu comme une petite utopie pratique, où les gens habitaient d'une façon où le travail était volontaire, où il n'y avait pas d'argent, où il n'y avait pas de police, où il y avait une pratique quotidienne de collaboration. Et alors j'ai arrêté à faire ma thèse sur l'art contemporain et j'ai commencé à travailler sur une certaine esthétique que je voyais dans cet campement et qui était une esthétique très puissante et qui parlait d'une autre façon de vivre. Et donc, il avait une relation très puissante entre l'éthique et l'esthétique. Et alors, ces livres traitent de ça, de les formes esthétiques de cet campement et comment cette forme esthétique était aussi une forme politique. Et donc, il analyse ces formes esthétiques à travers trois liens différents. La première, c'était l'urbanisme, comment ils ont construit une ville en miniature, et comment cette ville en miniature était nomade, était inspirée sur les sites contre-culturels du festival et sites comme ça. Et un peu toutes ces dimensions urbaine et aussi cartographique, parce qu'il y avait beaucoup de cartographie. La deuxième dimension était la dimension, disons, poétique. C'est au travers les affiches et les placards où il y avait un vrai exercice de poétique collectif, de poétique politique, où on donnait des différents nouveaux à des paroles qui ont utilisé pour parler de la crise économique. Et la troisième dimension, c'était la dimension performative, la dimension dans laquelle toute la population qui est orbitée vers les campements était performant une autre façon de se gouverner à travers des assemblées géantes ou à travers ces travaux très visibles, de prendre soin les uns des autres. Et c'est de ça que parlent ces livres. Et ces livres, c'est un peu la version condensée des deux autres livres et en train de condenser les parties qui parlaient des campements. Et c'était tous ces deux livres, c'était des exercices de passion. Et il y a cette expression anarchiste en Espagne, au moins, qui s'organise ta rage. Et pour moi, ça, c'était un exercice d'organiser mon enthousiasme que j'ai senti pendant cet jour au campement. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ces textes, parce qu'il y a aussi pour moi une dimension affective très forte.
Merci. Et donc, le troisième livre est celui de Sarah et Julie. C'est Sarah qui va, dans un premier temps, l'introduire.
J'ai assez parlé. Bonsoir. Merci beaucoup, Jérôme.
Ouais, je suis très heureuse d'être là en compagnie de vous toutes et tous, et surtout de Julie, qui est une grande complice depuis quelques années, en fait, une grande sœur intellectuelle pour un travail qu'on mène depuis 2019, en fait. Donc, je vais aussi m'inspirer d'Anna et de Julia, raconter un petit peu les débuts de cette aventure ensemble, qui a commencé quand on était boursières toutes les deux au Centre allemand d'histoire de l'art à Paris. Julie était postdoctorante à l'époque. Moi, je n'avais même pas fini encore ma thèse doctorale. Donc, on s'est retrouvés sur place et on a tout de suite connecté. On s'est rendu compte qu'en fait, on était plus ou moins sur la même longueur d'onde du point de vue politique et qu'on avait un regard assez proche pour comprendre, entendre, approcher l'art contemporain. Donc, on s'est lancé tout de suite dans la première aventure, qui est quand même la première partie. On pourrait dire de ce petit ouvrage qui a été publié en fait dans un ouvrage collectif qui a été justement promu par les DEFCA, les Centres allemands d'histoire de l'art, dans lesquels on apparaît justement qu'on co-autrise d'un chapitre de cet ouvrage. Mais à l'époque, on a été contrainte à répondre quand même à un appel particulier. C'est-à-dire que c'était un ouvrage qui était consacré aux questions de art et nouveaux médias. Donc, on voulait justement approcher la question de la relation entre art contemporain et politique, mais par les biais des nouveaux médias. Donc, la question n'était pas simple. Mais on a tout à fait réussi, et aussi avec une double longueur. Donc, on a toujours profité d'être à deux pour négocier encore plus de pages davantage. Ce qui se répète un peu cette fois-ci aussi. Et du coup, il y a à peine un an, aujourd'hui, presque, Julie m'appelle et me dit « Mais Sarah, on lance une nouvelle collection avec Jérôme. » Et on aimerait bien, justement, je voudrais t'inviter pour qu'on se relance en fait, dans une nouvelle aventure, en sachant que pour la première aventure, en fait, on avait été vraiment très heureuses. Et on avait réussi à travailler très bien ensemble, ce qui n'est pas toujours très facile, parce que bon, mais on est deux personnes avec deux cerveaux, quatre mains, avec des dynamiques aussi, des parcours différents. Donc, mettre tout ça en rapport, bon, mais ce n'est pas toujours très simple. Et puis, il faut que ça reste quand même accessible du point de vue du lecteur. Donc, il faut aussi réfléchir à comment réécrire les choses au-delà de nos propres paroles pour que ça... En tout cas, quand vous lisez justement l'ouvrage, vous ne sentez pas qu'il y a deux personnes derrière. Donc, il faut que ça reste cohérent dans l'expérience de la lecture. Donc, Julie, tout de suite, elle me met un peu dans la pression parce que je n'avais pas forcément prévu justement de publier un livre cette année, si rapidement, surtout pas. Et du coup, bon, après réflexion, on s'est dit, bon, mais oui, on y va. Et effectivement, aujourd'hui, on a ce petit ouvrage qui est extrêmement beau dans les mains et on est extrêmement heureuse. Donc, pour les faire, on s'est emparé à nouveau de ces premiers concepts qu'on avait déjà travaillé justement pour la collaboration au Centre allemand d'histoire de l'art contre visualité. Ce n'est pas un concept qui nous appartient, c'est un concept qu'on a repris en fait d'un chercheur spécialiste en études visuelles états-unien, un professeur à Yale qui s'appelle Nicolas Mirsoff. Et qui a travaillé tout d'abord sur les concepts de visualité, pour qui en fait la vision n'est pas une simple faculté biologique, mais plutôt issue d'une construction sociale et culturelle. Donc la visualité sera justement cet espace, ce terrain de rencontre dans lequel il y a des jeux de pouvoir qui se jouent aussi tous les jours. Et donc les contre-visualités viendraient quelque part à s'opposer à ou rendre visibles ces mécanismes de domination existants par la vision. Alors, nous avons fait un pas des côtés par rapport au concept proposé par Mirsoff, qui est quand même ancré dans les sciences sociales aussi. On a voulu justement essayer de repenser la question dans les champs de l'art contemporain, en faisant un pas des côtés, en disant la contre-visualité n'est pas forcément une opposition évidente, frontale avec la visualité, mais c'est plutôt de l'ordre d'un écart Et c'est pour ça que le sous-titre de l'ouvrage s'appelle « Écart tactique dans l'art contemporain ». Et on a repensé justement à différentes tactiques existantes aujourd'hui dans les domaines de l'art contemporain qui permettent justement de contester cette domination du visuel ou ces visuels dominants dans lesquels pas mal de mécanismes de domination se jouent aujourd'hui. Donc, nos intérêts sont, on était toujours les œuvres. C'est un test que je pense qui est assez théorique, mais on arrive quand même à mettre à l'épreuve pas mal d'idées, d'objectifs, d'hypothèses. On avait quand même un objectif qui s'est rendu extrêmement évident à la fin, en disant que parfois, on a un schéma en tête, mais ce n'est que quand on arrive dans les conclusions, quand on est en train d'écrire les conclusions, qu'on a finalement compris ce qu'on est en train d'écrire. Et du coup, je pense qu'un des objectifs de cet ouvrage, c'était de voir très concrètement la relation entre voir et pouvoir, voir et savoir, et finalement voir et croire. Donc, si vous voulez, l'hypothèse générale de l'ouvrage est que voir, ce n'est pas voir ce qu'on voit. Et c'est finalement, ce sont les œuvres en fait, qui nous ont permis justement d'arriver à cette hypothèse que je pense qu'on arrive assez bien à montrer. Et si j'ai une minute et demie, j'aimerais bien vous lire le début en fait, de l'ouvrage qui commence justement par l'analyse d'une œuvre qui nous a beaucoup marqué. Et c'était une très belle idée de Julie de commencer par cette œuvre. Disséminés à travers divers espaces naturels du sud-est du Mexique, 12 petits miroirs carrés, fissurent et busculent la cohérence du paysage en diffractant son reflet. Le ciel surgit du sol tandis que des nuages se mêlent à la terre brûlée en s'écrasant dans la poussière. Voilà ce que nous donne à voir 9 photographies constituant les traces d'installations éphémères réalisées par Robert Smithson dans les Yucatans. L'artiste les fait paraître en 1969 dans le magazine A Forum, accompagné d'un essai intitulé « Incidents of Mirror Travel in the Yucatan ». Tout en poursuivant la mise en dialogue des sites et des non-sites, bon, je ne vais pas vous lire la note, ça je vous les laisse, caractéristique du travail de l'artiste, l'œuvre constitue également une exploration des rapports des dominations qui se sont forgés sur les continents américains. Le titre même de la pièce permet en effet à Smithson d'évoquer les expéditions effectuées en 1839 et 1842 dans un esprit de supériorité impérialiste par John Long Stephens, qui en rendit compte dans son livre « Incidents of Travel in Yucatan ». Je suis désolée de switcher entre trois langues, ce n'est pas forcément évident. Un chirurgien accompagnait l'explorateur dans son expédition. Tandis que celui-ci notait ses impressions de voyage, celui-là entreprit d'opérer les autochtones atteints des strabismes qu'il avait rencontrés sur son passage. Si cette déformation oculaire était alors considérée comme une pathologie dans la société occidentale, parce qu'elle entraînait une défaillance de la vision binoculaire, elle était en revanche entretenue et développée estimant comme signe dévoté et comme symbole des lignées divines dans la culture maya. Dans les récits de Stephens, la déviation de l'œil constatée chez les Mayas est présentée comme l'incidence ou l'indice d'une déficience généralisée qui va bien au-delà d'une simple affection physique. Et je le cite, « En somme, lorsqu'il est associé à une population indigène et implicitement opposée à une vision civilisée et industrielle, l'esclavisme pourrait signifier un désordre culturel aussi bien que visuel, une culture incapable de s'extraire d'une parallaxe indolente et de remplir les fonctions des perspectives de la civilisation industrielle moderne. Les principes de la vision binoculaire, qui suppose la fusion de 2 images rétiniennes en une seule, se brise dans l'installation des Smithson. Ces miroirs dispersés à travers des paysages du Yucatan produisent un morcellement des sites choisis pour leur caractère désert qui accentue encore leur désolation. Ces ruptures, et c'est la conclusion de l'analyse de l'œuvre, avec la vision focalisée et utilitaire inquiète aussi symboliquement les canons de la vision, tel qu'il a été défini dans la culture occidentale. Voilà, je vous laisse avec ces petits morceaux et pour engager justement la discussion.
Merci. Donc ces trois ouvrages, ces trois textes sont a priori très différents, mais ont en commun de porter chacun sur un objet qui est très spécifique. Il y a un montage photographique, un contexte de lutte, un moment de lutte sociale, un concept, donc celui de contre-visualité. Et ça, c'est un principe qui oriente la collection Friction telle qu'on l'a imaginée, c'est-à-dire d'inviter le lectorat à rentrer dans le très vaste champ des relations entre art et politique par des objets ou des sujets qui tentent d'être le plus précis possible, précisément parce que la relation art et politique, de par son ampleur, peut à la fois tout aspirer, je pense, autour de nous, et en même temps n'a rien qui va de soi, une relation complexe, compliquée, et qui nous semblait donc assez invitant, je dirais, de l'aborder par des objets ou des sujets qui sont des points d'entrée ciblés. Évidemment, pour un éditeur, produire des ouvrages qui arrive à inviter le lectorat, c'est quelque chose qui semble aller de soi. Donc c'est la nature des textes que l'on choisit avec Julie qui, nous l'espérons, produira cet effet. Mais c'est aussi par la forme des ouvrages qu'on espère que l'invitation pourra opérer. On s'est adressé très tôt, après avoir eu l'envie de créer la collection, à Ariane Bossard et Olivier Huse, ici présents, pour designer la collection, pour une raison qui pour nous était assez évidente, qui est que on s'entend très bien déjà, c'était en fait peut-être la première raison, mais d'autre part aussi qu'on travaille ensemble sur des questionnements justement liés aux relations entre art et politique, art et lutte, depuis 2020 et une série de workshops en fait consacrés à ces sujets-là, enfin cette relation art-lutte qui avait pris l'initiative en fait, enfin qui sont nés dans le contexte de 3A, le lieu dont je parlais tout à l'heure. Donc on a entamé ensemble des recherches qui font qu'il nous a semblé logique de faire appel à tous deux pour concevoir le graphisme de la collection. Et quand on s'est rencontrés pour en parler, Ariane me rappelait tout à l'heure que ce qu'on avait passé comme commande, c'était que les livres soient chics. Alors il paraît qu'on a dit ça. Il y avait aussi, je crois, l'idée de la même façon que les textes, il y a quelque chose d'assez invitant dans leur forme. Pour nous, il était assez clair que ce serait des livres de poche, parce qu'on avait envie de quelque chose de très facilement manipulable, mais aussi qui, dans sa forme, puisse être pas de l'ordre du manuel ou de la boîte à outils, ce ne sont pas des manuels à proprement parler, mais qu'il puisse y avoir quelque chose qui soit de l'ordre d'une accroche assez évidente pour entrer dans les textes pour les lectrices et les lecteurs qui auraient l'ouvrage en main. Et donc, c'est ce à quoi vous vous êtes employé. Peut-être vous pouvez nous dire un petit peu par quel, typographiquement et iconographiquement, notamment par quoi ces invitations passent.
Ça marche, je ne sais pas. Alors oui, c'est ça, c'est chic mais cheap. C'est plutôt cheap mais chic, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faudrait le formuler. Non, en fait, c'est vrai qu'on est sur un ouvrage concis de 60 pages, et donc c'est vrai que je change l'entrée par laquelle je pensais qu'on allait rentrer, mais c'est vrai qu'on avait très envie avec Olivier aussi de laisser une vraie place à l'image dans ces ouvrages qui donc parlent de choses qui sont aussi visuelles, donc qui sont visuelles. Et donc c'est vrai qu'on a donc pour libérer de la place, fait plein de petites choses qui sont des choses assez concises. Par exemple, sur la quatrième de couve, on va à la fois trouver le sommaire, mais aussi la bio des auteurs, en plus du petit texte de quatrième. Donc voilà, ça, c'est des opérations un peu pour compacter l'information. De temps en temps, la couverture peut être imprimée au verso, et donc c'est notre espace en quadrichromie. Donc voilà, donc il y a des petites astuces comme ça pour vraiment faire la part belle à l'image. Et puis sinon, on va dire l'autre chose que vous avez, je trouve, vous avez tous et toutes mis l'accent là-dessus, c'est que ce soit accessible. Et donc, c'est vrai que nous, on a vraiment multiplié les accroches au niveau typographique pour que quand on feuillette le livre, eh bien, on ait plusieurs façons de rentrer dedans. Donc c'est pour ça que les intertitres sont très forts, sont très présents. Les citations aussi se décrochent. Comme ça, il y a du blanc pour pouvoir re-rentrer dans le texte. Et on s'est fait plaisir avec plein aussi de variantes typographiques qui font que le livre est assez vivant. même quand il n'y a pas d'image, à notre sens. Voilà, peut-être je laisse Olivier parler plus précisément donc, de nos choix icono, dont les choix iconographiques, parce que c'est vrai que ça, on l'a vraiment, je dirais, ça c'est peut-être aussi l'autre aspect un peu de notre collaboration au sein de la collection, d'échanger sur justement les images, comment est-ce qu'elles peuvent venir et comment est-ce qu'elles peuvent s'inscrire au sein des ouvrages.
Ouais, disons que dessiner une collection, c'est un peu comment on va faire l'identité, c'est-à-dire que des gens tombent sur les trois prochains et reconnaissent quelque chose, mais comment aussi ne pas figer, parce que les trois livres parlent de sujets très différents et convoquent du coup une iconographie vraiment variée. Et donc c'est dans le systématisme de l'iconographie, enfin plutôt son non-systématisme en fait, qu'on a travaillé, et qu'on a travaillé en collaboration avec les autrices, avec Jérôme et Julie, c'est-à-dire de recevoir des images et de se poser la question de comment on les met en livre, parce que en fait l'iconographie en tant que telle, les images existent, mais il y a leur mise en livre et le choix, le travail de ça. Donc on a travaillé différemment après pour chaque livre. Anna, il y avait un peu cette question de comment on contextualise ce portrait de Germaine Berton qu'on connaît souvent de face. Donc en allant chercher la revue surréaliste, en se disant qu'aussi montrer la revue et la double page dans laquelle le tableau apparaît, que c'était important. Donc contre visualité, c'était comment reproduire au mieux les œuvres. Donc c'est des questions toutes bêtes à chaque fois, mais qui prennent de l'échange, quoi, du temps. Donc comment investir, bah, effectivement, l'espace en couleur. Et puis pour le dernier livre, La Soudiade del Sol, c'était comment construire, alors que c'est des événements qui sont déjà assez anciens, 2011 pour beaucoup de lecteurs, et puis qui étaient en Espagne, comment construire un récit introductif qui a une certaine autonomie, qui va, avant de rentrer dans l'analyse, pouvoir retraverser l'ambiance, l'histoire de ces événements-là. Et en fait... on a un peu tiré des images de toute l'histoire du livre de poche qui peut nous habiter, c'est-à-dire autant les Français, que ce soit Maspero ou Pauvert, mais aussi la littérature américaine, le livre de poche des années 60-70, dont le plus connu est sûrement Medium is the Message, de McLuhan et Quentin Fiore, où en fait se dire que... plutôt qu'un livre discret, un livre court, mais qui en fait beaucoup. En même temps, il imprime tout autant le sens que l'image chez le lecteur. Quoi. Voilà, c'est un peu notre hypothèse.
Merci beaucoup. En aboutissant le travail sur les trois ouvrages, et puis pour ne rien cacher en préparant aussi cette présentation, il nous est apparu que, même si évidemment leurs sujets sont hétérogènes, il y a aussi des préoccupations qui leur sont transversales. Et donc pour lancer peut-être une discussion sur vos publications, il y a deux grandes notions, questions... dont nous avons convenu de parler, donc pas la peine de jouer l'air de la surprise. L'une qui concerne la question de l'antagonisme du conflit, et l'autre la notion de représentation. Alors peut-être pour commencer avec la question antagonique, en fait il y a deux grandes approches du fait politique, disons sur le plan théorique ou philosophique. L'une qui voit l'espace politique comme un espace d'agir en commun, où il faut construire la recherche du consensus, enfin, en tout cas si on pense à la politique dans un espace démocratique, disons. Et l'autre tradition ou approche qui a davantage à voir avec le fait de reconnaître l'espace politique comme un espace de conflit et d'antagonisme, non pas pour prôner la guerre civile, mais au contraire reconnaître que le conflit et certaines formes d'antagonisme sont nécessaires. Et il n'est pas impossible d'articuler ces deux approches. Mais il nous semble, nous, je dis Julie et moi, il nous plaît assez que l'antagonisme soit effectivement une notion qui est au cœur du politique et de la politique. Et en tout cas, on constate qu'elle a une place dans ce dont traite chacun de vos livres. Donc peut-être je voulais vous demander à quel titre il en est question dans vos recherches qui sont sur des objets différents, de cette notion d'antagonisme ou de dissensus, de conflit. Il y a un vocabulaire de synonymes qui ne signifie pas exactement la même chose, mais auquel on peut penser là. Et donc comment ça se manifeste dans les objets que vous avez étudiés? Je ne sais pas qui veut commencer. Si on...
Avec le terme de contre-visualité, ben on voit effectivement immédiatement qu'on est dans le dissensus. Un des auteurs qui nous a marqué, je pense toutes les deux on peut dire, c'est James C. Scott, qui relève qu'il y a des situations de domination, mais qu'il y a un apparent, en tout cas, statu quo, mais que ce statu quo ou cette acceptation de la domination des subalternes par les dominants, ce n'est jamais qu'une apparence, et qu'il existe toujours des actes de résistance qui peuvent être discrets, furtifs, éphémères, qui peuvent être de type très, très différent. Il prend des exemples dans le contexte de l'esclavagisme, etc. Et donc, cette idée-là nous plaisait, qu'il existe toujours, en fait, un dissensus et des formes de résistance, et que, finalement, face à la domination, la symétrie est malgré tout posée et critiquée. Et on a recherché dans des œuvres d'art, on pouvait retrouver aussi cette question-là. Donc comment des artistes vont proposer à un moment de révéler les asymétries et de les rendre visibles, de les critiquer, et puis aussi de proposer d'autres modèles. Dans l'ouvrage, on peut peut-être citer quelques noms d'artistes sur lesquels on a travaillé. Il y a deux artistes états-uniennes, par exemple Leslie Labovitz, qui travaille sur la représentation des corps féminins violentés au sein de l'industrie du disque. Si vous regardez des pochettes de disques des années 60 et 70, c'est assez sidérant la présence, en fait, de femmes qui vont avoir des bleus, qui vont être ligotées, qui vont, etc., sur plein d'albums. Et Leslie Labovitz va produire une performance de protestation pour obliger l'industrie du disque à cesser d'utiliser ce type de représentation sur les disques. Et on peut penser à des artistes plus récents. Par exemple, on parle de Joy Bulwanwini, qui va montrer les biais racistes qui interviennent au sein de la reconnaissance d'images par les intelligences artificielles, qui, par exemple, n'identifient pas les femmes noires ou les identifient sous l'idée de singes, ou vont dire que ce ne sont pas des cheveux, mais par exemple des perruques qui sont, ou des pastiches qui sont portées par ces femmes. Donc chacune va montrer combien il y a des visualités, donc des dispositifs de vision qui sont autoritaires et qui vont créer un dissensus pour les révéler.
Moi, je pense que dans mon livre, la côté un peu plus convivial et peut-être plus visible. Mais en même temps, une chose qu'on ne raconte pas tant, c'est que cet campement, il est issu d'une démonstration. Mais pas seulement ça, qu'après la démonstration, il y a eu de la violence policière et il y a eu des personnes qui sont allées à la... ont été arrêtés. Et à l'initiale, au début, les campements étaient en réponse à cette détention. Et alors, les débuts, c'était ça. Et la première assemblée, il y a une artiste du son qui s'appelle Kamen Nedev, et il a recordé les sons. Enregistré les sons de beaucoup de choses de l'encampement. Et il a enregistré les sons de toute la première nuit. Et toute la première nuit est passée en assemblée. Et la plupart de ces grands assemblées étaient en train de discuter la question de la violence. Et il a décidé de n'être pas violent, mais il a décidé justement comme question tactique, pas comme question idéologique. Alors, cette question était un peu sur les subconscients de tous les campements, et on ne parlait pas tant aujourd'hui de cette dimension un peu plus antagoniste. Et on ne parlait pas aussi tant de conflits internes qu'il y avait aussi dans l'encampement. Parce que l'encampement était comme une... il est issu dans un moment où il y avait des élections institutionnelles une semaine après. Et c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas... Désalojado? Evicted? Oui, expulsés. Ils n'ont pas expulsé les gens, peut-être pour ça. Je pense que oui, que ça, c'est la raison. Parce que personne ne voulait être associé à la violence policière contre des jeunes qui n'étaient pas violentes, parce qu'ils étaient décidés. Mais il y avait beaucoup de violence dans les médias contre les campements. Et après les campements, il y a eu beaucoup de violence contre les mêmes personnes, les mêmes activistes qui étaient dans les campements. Et les campements soi-même étaient comme une antithèse de l'organisation et de la démocratie représentationnelle. Il était comme image à l'inverse de ces élections où on vote, parce qu'il y avait de la démocratie directe tout le temps, presque comme une performance de duration, et toutes ces énormes assemblées de démocratie directe. Alors, il y avait une image d'antagonisme dans cette opposition et dans cette antithèse pratique qui était mise en place tous les jours dans les campements.
Pour rebondir directement sur ce que tu viens d'exposer à propos de la violence, je vais me permettre de lire la dernière phrase du livre d'Anna. Alors, bon, c'est pas un thriller, même si c'est vraiment haletant, donc je ne vous révèle pas la chute de l'histoire. C'est pour ça que je me permets de le faire. Restituer la dimension politique de l'expérience surréaliste revient à admettre que l'antagonisme social et politique violent de ces années-là pénètre la sphère des arts et qu'il peut contraindre celles et ceux qui y travaillent à prendre parti en reconnaissant la part de violence qui les habite et dont la situation est du tout au tout traversée. Bon, j'y pense parce que c'est une phrase qui nous a marqué. Elle fait partie des raisons qui nous ont conduit à inviter Anna à publier le texte qui est issu enfin, c'est un fragment retravaillé de la thèse que tu as réalisée. Et donc, cette question de la violence, évidemment, que soulève Julia, dans le cas de l'objet dont tu parles, elle est présente de manière très, très concrète. Alors, je ne sais pas si c'est par là que tu souhaitais aborder la notion d'antagonisme, mais bon, en tout cas, je fais une association directe, enfin, disons, un rebond d'idées, parce que cette notion de violence est aussi au cœur du sujet que tu traites et des problèmes qui se nouent du point de vue esthétique, justement, entre la relation des surréalistes à Germaine Berton.
Oui, merci. Tu parlais tout à l'heure de l'antagonisme en disant ce n'est pas une guerre civile et tu viens de lire ces dernières lignes de mon texte où j'insiste sur le fait que il s'agit d'une guerre civile à bas bruit. J'ai été très influencée par le livre de Enzo Traverso, 1914-1945, la guerre civile européenne, où Enzo Traverso reprend une hypothèse d'un historien allemand de droite, en fait, Ernst Nolte, qui était au cœur de la fameuse querelle des historiens au début des années 90 et qui avait écrit, je ne sais plus exactement quand, fin des années 80, début 90, un livre avec le même titre, sauf que lui faisait commencer cette guerre civile avec 17, c'est-à-dire avec la révolution bolchevique. Et je m'intéresse beaucoup à cette période et toujours dans cette optique et dans l'optique que finalement l'adoption surréaliste de Germaine Berton et la prise de position et leur soutien, parce qu'ils lui ont envoyé un bouquet de de roses rouges et d'œillets en prison, en la remerciant d'avoir fait quelque chose que eux ils n'ont pas su faire. Enfin voilà, tout ce qu'il n'y a pas, c'est pas un projet artistique, mais une nécessité de se positionner avec aussi une sorte de pressentiment ou de préfiguration à travers cet événement qui est présenté comme un fait divers de ce qui va se passer des décisions qui devront être prises pour partir combattre les armes à la main en Espagne pour combattre durant la Seconde Guerre mondiale, dans la résistance, etc. Donc je voyais ça sous cet angle-là. Donc évidemment, ça c'est un premier antagonisme très lourd et complexe. Et de l'autre côté, ce que j'ai essayé d'accentuer à la fin de cette lecture du tableau synoptique avec Germaine Berton, ce sont les contradictions surréalistes elles-mêmes, les équivoques, l'antagonisme entre la femme qui devient un absolu, un idéal, et qui vient dans le dernier numéro de la Révolution surréaliste remplacer via la peinture de Magritte, la femme cachée, le portrait d'une femme réelle, effectivement existante, avec sa biographie complexe, ses actes, ses décisions, ses paroles, etc. La manière dont notamment Aragon absolutise la liberté, le fait que la question de la violence meurtrière politique n'est pas posée, la question des moyens de la lutte, l'absolutisation d'une dimension terroriste, en fait, tout ça est présent. Donc il y a une dimension, voilà, de l'esthétisation de cet événement. Et de l'autre côté, il y a une volonté, ce que j'ai voulu accentuer, c'est que dès la période dite Dada, des surréalistes, c'est-à-dire quelques semaines après cet assassinat, en février 23, dans la revue Littérature, donc pré-surréaliste, Aragon prend position et publie un texte très explicitement politique, alors que l'on considère la période de Dada comme joyeusement nihiliste, l'art pour l'artiste, etc., etc. Et j'étais très inspirée aussi par une idée de Walter Benjamin dans son essai sur le surréalisme, le dernier instantané de l'intelligentsia européenne, où Benjamin dit « L'art pour l'art, c'est un pavillon sous lequel flotte une marchandise clandestine qui s'agit de découvrir, qui est pleine de puissance, voilà, de puissance politique.
Merci beaucoup. Donc un peu sans transition avant de passer à une discussion avec vous, avec le public, l'autre notion, comme je le disais, qui nous est apparue transversale d'une certaine façon aux trois ouvrages, c'est celle de représentation, alors qui évidemment est particulièrement intéressante pour aborder les liens entre art et politique, parce qu'elle a un sens aussi bien au sens politique, politicien même, on pourrait dire, qu'au sens artistique ou esthétique. Représenter, ça peut être agir ou parler au nom d'un groupe, ça peut être remplacer une personne ou un groupe dans l'exercice de ses droits ou la défense de ses intérêts. C'est aussi donner l'image de ce qui est absent par un artefact que l'on produit à cet effet. Ça peut être même le fait de donner un spectacle, représenter une pièce de théâtre, par exemple. Et donc, selon le sens du mot, on oscille entre la sphère de la politique et celle de l'art, mais aussi entre un phénomène d'incarnation et de visualisation. qui a à voir avec l'agir, l'identité, les images. Donc c'est une notion particulièrement féconde en diverses directions concernant les arts et la politique. Et je voulais donc vous demander comment là aussi elle vous semble se poser dans la recherche que vous avez entreprise dans chacun de vos ouvrages. Pareil, je ne sais pas qui veut se lancer dans la réponse à cette question. Merci.
Merci Jérôme pour ces questions que tu soulèves qui me semblent vraiment fondamentales à l'heure actuelle, parce que déjà c'est un sujet qui concerne toute l'histoire de l'art, toute la création artistique. C'est un peu les grands conflits qu'il a l'art en fait avec la notion d'anarchie. L'art passe toujours par la représentation de quelque chose, alors que l'anarchie justement va à l'encontre de toute représentation politique. Et je trouve que c'est justement dans cette tension qu'on peut un petit peu éventuellement discuter ce soir dans le cadre de notre ouvrage avec Julie, Contre-visualité. La question se pose à chaque moment de l'ouvrage. Et d'ailleurs, c'est une question extrêmement importante dans les discussions aujourd'hui sur l'art contemporain, parce qu'on se pose, qui écrit sur quoi, sur qui représente quoi, sur qui, est devenue extrêmement importante. Donc, surtout du point de vue en fait, des minorités qui sont représentées par d'autres minorités ou par de nos minorités. Donc il y a par exemple cet ouvrage qui apparaît sur la couverture, qui me semble un des exemples les plus paradigmatiques de ces questions. Il s'agit de deux artistes, et ce n'est pas un duo d'artistes, c'est deux artistes individuels qui ont décidé justement de se faire cette œuvre ensemble. Il s'agit de Coco Fusco, une artiste cubano-états-unienne, qui est né à New York, et un artiste mexicain, Guillermo Gomez Peña, qui habite aux États-Unis depuis très 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 longtemps. Et ils ont décidé en 1992 de se réunir ensemble, de faire cette œuvre. 1992, je ne sais pas si la date vous dit quelque chose, mais on célébrait, pour le dire très rapidement, les 500 ans de la soi-disant découverte des Amériques. Je dis la soi-disant, excusez-moi, j'ai une espagnole à côté de moi. Parce que, mine de rien, c'est en fait les termes qu'on emploie toujours en Espagne. D'ailleurs, le 12 octobre est toujours le jour national en Espagne. Donc, on voit bien que, malgré tout le travail qui a été fait du point de vue intellectuel, aussi par l'art et par d'autres moyens, en sciences sociales, etc., ces constructions perdurent, elles subsistent, et il y en a plein dedans. Donc, du coup, ces deux artistes décident de faire cette œuvre dans laquelle, en fait, c'est eux sur l'image, ils décident de se mettre dans une cage, un peu à la manière où on montrait des êtres humains dans les grandes expositions universelles qui étaient appelées des humains. Et c'était notamment des personnes qu'on transportait en fait depuis l'Afrique, notamment depuis les continents africains, pour les montrer dans l'espace européen, dans le cadre de ces expositions universelles. Donc, ils s'inspirent de cette histoire et ils sont enfermés dans cette cage et ils sont traités vraiment comme des sujets, pour les dire aussi très rapidement, qui viennent d'être découverts. Donc, en fait, il y a tout un dispositif qui est mis en place par l'institution qui montre la performance. Et pendant une semaine, en fait, ils sont vraiment traités comme des sujets de découverte. Donc, il y a les gardiens des salles qui vont venir les donner à manger dans la bouche. Ils vont sortir de la cage pour aller dans les toilettes avec des lestes. Il y aura les publics qui pourra se prendre en photo avec eux. Derrière, il a eu une des occasions où l'œuvre a été montrée, où par un surplus de 5 dollars, je ne me rappelle plus, les spécimens masculins pouvaient montrer aussi ses génitaux. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que dans la réception de l'œuvre, notamment dans ses premières, au début de son itinérance, parce que c'est une œuvre qui a beaucoup itinéré dans plusieurs pays au monde, et pas seulement dans des pays occidentaux, à aucun moment, sauf à une occasion, il a eu une réaction de la part du public. En fait, elle a installé une espèce de normalité à outrance. Donc, à quel moment il a eu une révolte, personne ne s'est dit, mais attendez, qu'est-ce qu'on regarde là? Qu'est-ce qui se passe là? C'est pas possible. On est en 1992, et puis ensuite en 2004, ensuite en 2020. Et donc, justement, notre approche essaie de voir dans quelle mesure les institutions musicales reproduisent aussi ces modèles de représentation de l'autre, d'autrui, qui persistent encore dans nos sociétés. Et en fait, les artistes, ils étaient très intéressés à explorer aussi la façon dont de minorités sont représentées, par exemple, dans les médias aux États-Unis et dans d'autres pays au monde. Donc voilà, pour les petits exemples, je voulais vous partager. Julie, je ne sais pas si tu veux ajouter parfait, quelque chose.
Dans le cas de le mouvement 15e, il était très, très, très explicite la question de la représentation. Alors, la démonstration, la manifestation qui était le début de toute la mobilisation, les paroles qui ont été devant les corps des manifestants sont « non nous représentent, ils ne nous représentent pas ». Alors, il y avait une dénonciation et une impugnation de la représentativité de la démocratie libérale et de l'idée que les politiciens peuvent représenter la population. Et ça, c'était une chose qui était présente pendant tous les campements. Et je trouve très intéressant que la réponse était une réponse esthétique, bien à travers de la création d'une ville miniature, bien à travers de la création de milliards de placards avec des énonciations poétiques et politiques, ou bien au travers d'assemblées qui étaient performatives parce qu'il était trop grand pour être vraiment opératif et trop long pour être aussi vraiment opératif, et qui étaient développés dans les centres même, dans les centres de pays. Et alors, ils étaient assistés aussi par beaucoup de spectateurs qui étaient là pour les voir, aussi présentiellement qu'au travers des moyens de communication. Et aussi, cette crise de représentation avait une réponse plus pratique qui était la prendre dans les propres mains la gestion de la vie. Et ça, c'était une chose qu'on pouvait voir dans tous les campements. Mais il y avait aussi la question irrésoluble de toutes les images de campements qui vont circuler instantanément, aussi pour les réseaux sociaux. Et maintenant, l'année dernière, les placards qui étaient à la Porta del Sol dans les campements, ils se sont installés dans les musées d'art contemporain Reina Sofia. Alors, ces questions de la représentation et de comment l'action devient représentation et devient image instantanément, et comment ça dialogue avec les visualités, les contra-visualités, c'est une question qui est un peu inéluctable.
Je pense à une chose qui ce n'est pas la question de la représentation, mais tout à l'heure tu parlais du mot d'ordre organiser la rage à Madrid. Et il fait écho à une formule célèbre, organiser le pessimisme, de Pierre Naville. Et Pierre Naville était directeur des trois premiers numéros de la Révolution surréaliste. Et c'est lui, apparemment, Aragon et lui auraient personnellement mis créé le dispositif, le tableau synoptique sur la table de l'imprimeur. Voilà.
Je pensais tout le temps à Violette Nozière quand tu parlais. Et cette idéalisation aussi de la violence féminine, non? Je ne sais pas si ça c'est en question, mais parfois je me demande aussi s'il y avait une dimension érotique, non, dans cette fascination avec la violence des femmes dans un contexte de masculisme comme les propres contextes surréalistes. Je ne sais pas si...
Certainement, mais je ne l'ai pas étudié.
On peut aussi discuter de manière plus informelle tout en profitant de la librairie tant qu'elle est ouverte. Il va sans dire que ses ouvrages sont à vendre, évidemment. Si vous avez des questions, des remarques ou des envies de discussion sans que ce soit comme ça publiquement, nous restons par là, évidemment. Merci beaucoup d'avoir été là en nombre. Merci à Terra Nova pour son accueil. Et donc, on est très heureuse et très heureux de mettre ces trois ouvrages en circulation. On espère qu'ils sauront susciter votre curiosité. Et merci pour votre écoute.
C'était Rencontre avec les autrices de la collection Friction des éditions Loreley.
Radio Livre 2.